partenaire en lumière sur IDFM Radio.
Allez, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est l'émission Partenaires en Lumière qui commence. IDFM Radio, média social de proximité valdoisien, met en lumière ses partenaires sur les ondes. Et en ce dernier lundi du mois, partons à la découverte des CMEA, Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Je vais y arriver, beaucoup d'acronymes nous attendent dans cette émission. Un mouvement pionnier de l'éducation populaire en France. On va échanger sur leur évolution de la création en 1937 à aujourd'hui. Comment et pourquoi cette organisation est devenue un acteur incontournable de l'éducation active au niveau national. Pour nous en parler au micro aujourd'hui, Jean-Marc, président des CMEA Île-de-France. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Morgane est avec nous également, membre du conseil d'administration. Bonjour Morgane.
Bonjour.
Slimane, directeur CMEA Île-de-France, bonjour.
Bonjour Sabrina.
Et Fatia, apprentie. Bonjour Fatia.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, merci.
Tout est ok, tout le monde va bien?
Tout va bien.
Alors, première émission d'une série de 5 émissions qu'on va faire ensemble une fois par mois, donc les derniers lundis, le dernier lundi de chaque mois. On se rencontrera pour échanger sur les CMEA, leurs actions, leurs projets et toutes les nouveautés. Qui vont arriver au fil de cette année. Comment s'est passée ces premières semaines de janvier 2025, des résolutions? On va commencer l'émission tranquillement. Des résolutions, des bonnes résolutions, ça a bien démarré. Qui veut? Le président, monsieur le président?
Oui, des résolutions forcément, toujours. On veut continuer de développer l'activité de notre association, rayonner de plus en plus sur l'Île-de-France, avoir une vie militante de plus en plus importante. Et comme on travaille beaucoup autour de la des questions de formation, avoir le plus d'apprenants possibles venant d'horizons différents.
Alors on va en parler dans cette première partie d'émission. Morgane, je me tourne vers toi. On va commencer par Morgane, est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment tu as rencontré l'organisation, l'association CMEA?
Oui, bonjour, donc Morgane, effectivement. Donc moi, ma rencontre avec les CMEA, elle date de 2019, si je ne m'abuse, ça doit être ça, dans le cadre de mon stage de fin d'études, puisque je suis rentrée à la Fédération internationale des CMEA, donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter un peu après. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré les CMEA, et moi j'ai fait ma première formation au CMEA avec les CMEA de Belgique.
Okay.
Et j'ai découvert qu'en fait, on pouvait participer à une formation avec des méthodes de pédagogie totalement différentes de ce que j'avais vécu jusqu'ici, en sachant que je sortais un petit peu du milieu universitaire, donc c'était vraiment tout nouveau. Et au final, de fil en aiguille, je suis restée très proche des CMEA, j'ai été même permanente, ce qui veut dire salariée chez nous. Et aujourd'hui, je suis membre du conseil d'administration des CMEA Île-de-France, puisque c'est un mouvement que je défends vraiment, et je pense qu'il y a beaucoup de possibles au CMEA. Voilà, donc ça c'était ma rencontre, et où j'en suis aujourd'hui.
Belle rencontre alors.
Très belle
pour
rencontre.
Toi. Fatia, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nous dire, pareil, comment tu as rencontré les CMEA?
Oui, alors moi c'est Fatia, j'ai rencontré les CMEA, je pense que c'est à peu près aux mêmes périodes que toi Morgane, c'est 2019-2020. Moi j'ai rencontré les CMEA parce que je suis rentrée un peu en rupture avec l'éducation nationale. Et en fait on m'a plus ou moins orientée vers les CMEA pour... passer un BPJEPS, donc c'est le brevet professionnel de la jeunesse, éducation populaire et des sports. Et en fait, c'est comme ça que je les ai rencontrés. Pareil, des méthodes que du coup, j'avais jamais vécues. Et aujourd'hui, je suis en DGEPS, donc c'est le niveau d'après. Et du coup, je suis apprentie au sein des CMEA aussi.
Donc tu es revenue?
Je suis revenue.
Parce que tu as adoré.
C'est ça. En fait, je crois que j'ai jamais vraiment quitté non plus. Mais ouais.
Et c'est cool, et aujourd'hui, vous allez faire découvrir aussi à nos auditeurs pourquoi c'est génial. Slimane, je me tourne vers toi. Pareil, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nous dire, nous raconter un peu ta rencontre avec les CMEA?
Moi, c'est fait en plusieurs temps, les CMEA, je les ai rencontrés d'ailleurs de manière assez indirecte en 2009, si je dis pas de bêtises. Je commençais, j'étais faisant fonction d'éducateur spécialisé, et à l'endroit où je bossais, les CMEA formaient les éducateurs spécialisés dans le cadre d'une convention avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Donc j'entendais beaucoup parler des CMEA, j'entendais beaucoup parler de personnes que je croise encore aujourd'hui, et donc j'ai eu connaissance des CMEA à ce moment-là. Et nos chemins se sont recroisés en 2019, lorsque je suis devenu stagiaire des CMEA.
Dix ans après,
je suis devenu stagiaire des CMEA. J'ai passé la formation qui permet d'être chef de service du côté protection de l'enfance, parce que une des particularités en Île-de-France, c'est qu'on forme beaucoup du côté animation, mais aussi beaucoup du travail social. Donc beaucoup d'éducateurs spécialisés passaient par les CMEA. Et donc j'ai été stagiaire des CMEA, formation qui pour moi a été une petite révolution, hein, parce que justement aussi, hein, difficulté scolaire à l'époque, à la base, et des méthodes différentes pour apprendre, donc font que j'ai accroché comme pas possible avec la formation et avec les CMEA. J'ai été ensuite administrateur des CMEA et en 2023, j'ai été directeur des CMEA en Île-de-France.
On a l'impression qu'une fois qu'on met le doigt dedans, difficile de le retirer. Alors à tes côtés, Jean-Marc. Alors Jean-Marc, tu es président des CMEA Île-de-France. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nous dire pareil, comment tu as rencontré les CMEA ?
Alors moi, je suis le dernier des Mohicans de la bande, okay. Puisque ma première rencontre avec les CMEA date de 1984, où j'ai fait un stage BAFA, donc brevet d'aptitude de fonction d'animateur. C'était le premier stage qu'on appelle le stage de base. J'ai trouvé, comme ça a été dit auparavant, des méthodes intéressantes pour apprendre et pour se former. De ce fait, je suis devenu militant des CMEA. J'ai participé à des regroupements. À l'époque, c'était les CMEA à Paris. Puis j'ai continué de me former. Je suis resté de loin en loin. On s'est vu de loin en loin avec les CMEA. Et puis j'y suis véritablement revenu dans les années 2010-2015 comme administrateur.
Et pourquoi t'es revenu quelques années plus tard?
Bah, je suis revenu parce que la directrice précédente des CMEA, qui était une amie avec laquelle je travaillais et qui venait aussi des CMEA, savait que j'en avais fait partie et elle cherchait des administrateurs qui connaissaient le mouvement depuis longtemps. Donc je suis rentré comme administrateur, je crois que c'était 2015. Et puis je suis très vite rentré dans la matrice, parce que 2015 j'étais administrateur, je suis devenu secrétaire, je suis devenu vice-président et depuis 2 ans, je suis le nouveau président des CMEA Île-de-France.
Et donc beaucoup de pain sur la planche.
Oui, c'est un deuxième boulot.
Alors j'ai envie de savoir, et les auditeurs ont envie de savoir, comment sont nés les CMEA et dans quel contexte ils ont vu le jour, à quels besoins peut-être les CMEA répondent. Morgane,
tu peux essayer de commencer et donner quelques éléments. Alors les CMEA, c'est une association d'éducation populaire. C'est aussi un mouvement d'éducation nouvelle. L'éducation nouvelle, c'est un principe, principe pédagogique qui vont officiellement voir le jour de façon un petit peu plus large, notamment avec le congrès de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle en 1921. Le contexte est important parce qu'en fait, on est aux sorties de la Première Guerre mondiale et en fait, l'idée de la rencontre de ces pédagogues, c'est des pédagogues du monde entier qui vont se retrouver en fait à Calais en France et qui vont se dire en fait ce qui vient de se passer, plus jamais. Bon, il s'avère que quelques années plus tard, on aura malheureusement un schéma répétitif de l'atrocité des guerres. Mais donc cette idée, en fait, c'est la défense de l'éducation nouvelle, c'est-à-dire comment on fait pour qu'en fait plus jamais il y ait ces situations-là dans le monde. Et les CMEA vont s'intégrer donc dans cette philosophie des principes d'éducation nouvelle. Et en fait, on va voir le jour en 1936-37 à peu près, avec notamment Gisèle de Failly. On a d'ailleurs les principes qui fondent les CMEA, qui sont disponibles sur le site internet des CMEA si les auditeurs et auditrices ont envie de s'intéresser davantage. Et très vite, il va se passer l'idée que on va devoir former les premiers animateurs et animatrices au camp de vacances scolaires. On va arriver sur la période du Front Populaire, il va y avoir les premiers congés payés, etc. Et donc, on va avoir, donc Jean-Marc en parlait, les stages de base, mais en fait, c'est ce qui va être un peu le moteur de la formation au CMEA. Là, je vous donne des éléments que moi, je connais avec le temps au niveau des CMEA. Il y a plein d'éléments que je vais forcément manquer, puisque c'est, en fait, quand on est un mouvement qui a plus de 80 ans d'existence, il y a forcément plein de récits et plein d'histoires. Et puis, et en fait, c'est un mouvement qui est très large, qui va se développer. Donc, il est présent dans beaucoup de régions de France. Aujourd'hui, on pourra revenir dessus aussi, mais donc les CMEA sont présents sur tous les territoires hexagones et outre-mer. Et puis, il y a aussi la dimension internationale, c'est-à-dire que les CMEA, c'est un mouvement qui existe aujourd'hui dans différents pays d'Europe et aussi différents pays du monde entier, notamment dans nos anciens pays colonisés, parce que il y a eu des éducateurs et éducatrices qui étaient présents à ces moments-là et donc qui continuent d'exister aujourd'hui. Voilà dans les grandes lignes. Je pense que, je ne sais pas si Jean-Marc, toi, tu as envie d'ajouter quelques éléments supplémentaires, peut-être.
Ce que je peux ajouter, c'est que les CMEA sont à l'initiative de la notion de stage sur la création des brevets sur l'animation. On peut regarder les CMEA du côté de l'animation. Il faut élargir le spectre. Oui. Parce qu'en fait, les CMEA ont participé aussi à la création des diplômes d'éducation spécialisée. Et ils étaient aussi, ils travaillaient beaucoup sur les questions de santé mentale et de pédagogie institutionnelle.
Voilà. Alors, il y a beaucoup d'informations. CMEA, mouvement, association, centre de formation. Comment vous vous définiriez
C'est
les trois en même temps.
Bah c'est ça, la réponse est dans la question et c'est important aussi. Aujourd'hui, les CMEA, on peut voir en Île-de-France, on a été, je pense, identifié comme un organisme de formation. C'est important pour moi de rappeler qu'on est avant tout une association d'éducation populaire qui a choisi la formation pour nourrir le mouvement, entre guillemets, donc la pédagogie au service du mouvement. Quand on parle de pédagogie institutionnelle, en tout cas sur nos méthodes d'apprentissage, je pense qu'on dépasse l'organisme de formation. L'idée, c'est de se dire, cette formation-là, comment est-ce qu'elle va pouvoir transformer le stagiaire ou l'apprenant qui est en face de nous, et comment est-ce qu'on va pouvoir faire de lui une personne pas nouvelle, parce qu'on prend toujours l'existant, on prend toujours la personne en tant que telle. Donc elle n'est pas nouvelle, cette personne, elle existe. Il faut juste, à certains moments, rassembler des ingrédients. Et au travers des CMEA, asso, mouvement, et tout ce qu'on peut imaginer, en tout cas, ce qui est important, c'est que pour nous, en fait, la personne, quels sont les ingrédients pour pouvoir justement exister en tant que personne et prendre conscience que il y a des différentes possibilités au sein de notre association sur cette transformation-là.
Alors aujourd'hui, concrètement, les objectifs, les grandes missions des CMEA, c'est quoi ?
Alors, moi, ce que je peux en dire, c'est que pour reprendre déjà ce qui a été dit précédemment, les CMEA, c'est un mouvement de l'éducation nouvelle issu de l'éducation populaire. Les choses se discutent beaucoup entre éducation populaire et éducation nouvelle. Morgane a déjà donné une grande définition d'éducation nouvelle, mais les je dirais que les anciens et les tenants des CMEA insistent sur le fait que c'est d'abord un mouvement d'éducation nouvelle et qui s'appuie sur qui est issu de l'éducation populaire. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que le choix des CMEA, c'est d'utiliser la formation comme moyen privilégié pour accompagner les personnes dans leur transformation. Donc, il y a une volonté de transformation sociale, et cette transformation sociale, elle s'appuie sur à la fois de la formation, donc des choses pratiques. Ça s'appuie à la fois sur de la théorie et sur de la pratique. Mais vraiment, la question de la formation, c'est vraiment l'outil. Donc quand il se posait la question de association, mouvement, centre de formation, c'est un mouvement pour lequel la formation est au service de ce mouvement, en fait. Voilà.
Oui,
je peux compléter si tu veux aussi pour la question en fait des objectifs aujourd'hui du mouvement, c'est que il y a un projet associatif à échelle nationale qui après est transcrit dans les réalités territoriales du réseau des CMEA. Éducation nouvelle, ça va aussi avec le fait qu'il faut se réactualiser perpétuellement par rapport à la aux situations que nous vivons. Et donc parmi les objectifs, on va avoir des sujets très spécifiques sur la question de l'éducation aux médias, sur la question de l'alimentation, le rapport aux migrations, etc. Et donc en fait, nous en tant que mouvement, on est obligé de se réinventer tout le temps parce que il y a des nouvelles réalités qui arrivent, et sur les territoires au niveau de l'Hexagone et des Outre-mer, les réalités sont absolument différentes. Oui. Donc l'éducation nouvelle, elle a cette force aussi de se dire, on a aujourd'hui des méthodes de pédagogie qui nous permettent de tout le temps être en reconstruction,
réflexion.
Exactement. De nos pratiques et de ce qu'on va mettre en place.
Voilà, c'est ce que Oui, parce que je voulais justement vous demander, l'association, elle existe depuis des années maintenant. Comment on arrive à évoluer justement avec son temps? Et bon, t'as répondu du coup à cette question. Et comment vous êtes organisé alors? Comment les CMEA sont organisés aujourd'hui? Alors, t'as parlé au niveau national, mais au niveau régional, comment vous êtes organisé? Comment ça se passe?
Alors, juste pour revenir un peu sur une petite phrase, moi, qui m'avait marqué, c'est que c'est la question sur l'actualisation de l'éducation nouvelle. Oui. Moi, ça me renvoie à une autre question, c'est comment l'éducation peut-elle être nouvelle si elle n'est pas repensée en fonction de la période où on vit? Et de fait, si elle date de il y a 50 ans ou il y a 80 ans, oui. Implicitement, elle n'est plus nouvelle. Sur l'Île-de-France, comment on est organisé? On a un siège à Aubervilliers qui fait office aussi d'organisme de formation et on a environ 1500 stagiaires qui passent par an. On est sur différentes formations. On essaye aussi d'avoir une vie associative assez présente et de créer une sorte d'écosystème. Tout à l'heure, quand je parlais de transformer aider les personnes à se transformer et à tirer le meilleur d'eux-mêmes à partir d'eux-mêmes et pas à partir des idées préconçues qu'on pourrait avoir sur certaines personnes, on part de ce principe-là. Donc sur cette organisation-là, on est situé à Aubervilliers, on est sur l'organisme de formation assez présent et en parallèle de ça, il y a toute une vie associative qui perdure et en tout cas qui s'accentue sur les dernières années. Et donc dans cette organisation-là, on essaye de penser en écosystème. Comment est-ce que des stagiaires, un peu à l'image de mon parcours, moi j'ai été stagiaire au CMEA, ensuite j'ai été administrateur et aujourd'hui je dirige les CMEA en Île-de-France. Et donc cet écosystème-là, comment est-ce qu'on peut le repenser à l'image de, on organise 4 regroupements militants par an, ces regroupements militants sont co-construits par un militant, un administrateur, un membre de l'équipe de direction et un salarié. L'idée, c'est qu'on soit le moins possible dans du descendant, même si des fois, c'est aussi un principe de réalité. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut poser cette co-construction en continu? Donc, sur l'organisation, en tout cas, de nos actions, c'est compliqué de définir on est organisé comme ça ou comme ça ou comme ça, tant une action peut avoir une organisation, une autre action aura une autre organisation. Et donc, on est toujours très ouvert à l'initiative. On parlait d'un groupement militant. Morgane fait partie d'un groupe d'organisation de regroupement militant. On s'est dit, si on invite nos stagiaires à un regroupement militant, ça serait bien que eux nous proposent un temps de ce regroupement militant et ils auront la possibilité de le faire. C'est aussi ça pour moi les CMEA, et quand on parle de ces fameuses transformations ou en tout cas de rendre la personne acteur ou actrice de son parcours de formation, mais voire de vie, c'est aussi pouvoir agir. Et on reviendra peut-être dessus, mais au CMEA, l'agir a une grande place sur ce qu'on cherche à mettre en réflexion, au moins chez ces personnes-là.
Alors, le vocabulaire est très important. Les auditeurs qui viennent de nous rejoindre se posent certainement des questions. On est avec les CMEA Île-de-France. On entend le mot militant. Est-ce que Slimane, ou peut-être vous voulez réagir, mais pourquoi utiliser ce terme-là de militant qui peut avoir une connotation déjà péjorative, alors que vous l'utilisez plus le côté positif et d'action?
Moi, je veux bien y aller au moins au départ. Et après, de toute façon, je pense qu'on a tous notre mot à dire un peu là-dessus.
Je vous vois sourire, mais c'est important, oui. Je pense, on pose les termes et...
En fait, je pense qu'il y a un héritage et on utilise des mots à certains moments parce que c'est le mot qu'on a attribué à une situation. Mais je trouve la question excellente parce que c'est une question qu'on se pose aussi. Qu'est-ce que c'est réellement un militant ? Et où est-ce qu'on dissocie un adhérent, un militant,
bénévole,
exactement. Surtout qu'en plus, t'as raison de le souligner, ces dernières années, le mot militant a été un peu dévoyé et attribué uniquement à certains, certaines sphères avec qui nous on est en profond désaccord. Donc voilà. Pour moi, un militant, c'est quelqu'un qui cherche à s'engager d'une manière ou d'une autre. Militer, pour moi, c'est ça. Il n'y a pas de frontière à avoir sur cette question-là. Alors après, au CMA, on peut aussi parler d'adhérents et il y a des longs débats qu'on pourrait avoir. Mais voilà, pour moi, je te donne une bêtise, mais dans les quartiers populaires, un collectif de jeunes de ce quartier-là qui mène une action en soutien à une situation qu'ils ont vécue et qu'ils ont plus envie de vivre ou qui cherchent, pour moi, ils militent. Pour moi, ils militent. Après, ils se font entendre et puis après, ils peuvent se monter en association. Donc, pour moi, militer, je le situe là. Je vais te donner un autre exemple. Pour moi, venir se former au CMA, choisir les CMA pour se former, c'est un acte militant aussi. C'est pas anodin. Tu pourrais décider d'aller ailleurs. Nous, par exemple, on a choisi d'être à Aubervilliers. C'est une vraie volonté du conseil d'administration. Là, on vient de se réengager sur les 7 prochaines années à Aubervilliers. Au moment où on négociait avec notre bailleur actuel, moi, les consignes que j'avais du conseil d'administration et du bureau de l'association, c'est qu'on soit sur un endroit, si on était amené à partir, qui est en phase avec notre identité et nos valeurs, en fait. Donc voilà, pour moi, militer, je le situe là. Donc, un stagiaire milite. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des militants.
Et qui ne le savent pas.
Et qui ne le savent pas.
Morgane, est-ce que tu peux réagir à ça?
Moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense que effectivement, au CMA, si on utilise le terme militant-militante, c'est parce que en fait, le projet associatif des CMA est un engagement politique qui a une volonté de transformer la société. Oui. Alors, on est dans le très long terme, etc. Mais en fait, ce qu'on décide de mettre en place aujourd'hui, c'est parce qu'on pense qu'il y a une façon de concevoir l'éducation qui est différente, une façon de concevoir la formation qui est différente, de prendre en considération l'individu en tant que tel. Et du coup, moi, j'ai envie de poser la question à Fatia parce que, au final, tu l'as dit. Enfin, tu es revenue. Donc t'as fait ton BPJEPS, donc on a cité l'acronyme tout à l'heure, mais on reviendra dessus. Mais du coup, pourquoi tu vas revenir, par exemple, au CMA en fait, et pas dans un autre organisme de formation pour une nouvelle formation?
C'est Morgane qui pose les questions maintenant.
Ouais, non, mais, et surtout qu'elle nous a dit en off qu'elle avait pas fait son BAFA au CMA,
vrai,
et elle s'est tapé la main.
Non, je pense que déjà moi militant, je pense qu'il y a une histoire d'héritage aussi de l'association, donc je pense que ça vient de là aussi. Après, je pense qu'il y a aussi une histoire de, en tout cas à Aubervilliers, on est sur l'animation et le travail social. C'est des métiers d'engagement. Et je pense que ça vient de là aussi. L'histoire du militant, c'est qu'est-ce que je vais donner, une sorte de don et de dette, qu'est-ce que je donne, comment je récupère, etc. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles finalement j'ai pas vraiment quitté les CMA, hein, parce que je continue à faire des stages BAFA, etc. Mais c'est aussi le OK, j'y vais vraiment en fait. C'est au début, je suis un petit peu au-dessus, je regarde ce qui se passe, etc. Et après, j'y vais vraiment. Et pour moi, c'est là où justement on devient militant. Et je rejoins Slimane sur nous, on identifie pas mal de militants qui sont peut-être pas adhérents de l'association, mais en tout cas qui défendent ses valeurs et en tout cas qui. En fait, je pense que c'est l'engagement. Le militantisme, c'est aussi l'engagement. Et comment est-ce que moi, je fais transpirer mon engagement dans mes actions et voilà.
Bah c'est une belle manière en tout cas de promouvoir les CMA, je pense, c'est de faire parler des personnes comme Fatia.
Peut-être je peux rajouter juste une dernière chose sur la question des militants. Si on doit faire la distinction entre militants et adhérents, la différence elle vient du fait que les militants au CMA sont des acteurs. Ils ont leur mot à dire, ils participent à un certain nombre de choses et ils participent à la promotion en fait des pratiques et des façons d'agir en cohérence avec l'éducation nouvelle.
Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On va faire une pause, parce qu'en radio, on fait des pauses musicales et on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre nos échanges et la découverte des CMA Île-de-France avec mes invités du jour, Slimane, Jean-Marc, Morgane et Fatia. À tout de suite sur IDFM Radio. You're truly something special, just what my dreams are really made of. Let's stay together, baby boy. There's no one like you around. Oh, baby.
Baby girl.
Yeah.
stone. I can't really explain it. I'm so into you now. I wanna be more than a friend of you now. When they ask, I mention my baby girl in the interviews now. And I don't bring the problems from the 90s and the 2000s. There's no reason to have a friend or two now. Cause the kid's ready to tell you how he feel in a few vows. Maybe I speak in general now. But girl, I'ma do whatever just to keep a grin on you now. Where I go, they wear bikinis in the winter too now. What you think about 10 lines on the skin of you now? Why wouldn't I wanna spend a few thou? On Fifth Ave, shopping sprees, and them dinners to chow. I ain't concerned what other men would do now. As long as when I slide up in you, you growl. And any dude with you, he better be a kin of you now. And I ain't jealous, it's the principle now. I'm so into you. In the flashing, I would've traded it all in orderly fashion. The villa in Florida, we crashing just off the shore, so you can hear when the water be splashing. The drop top three in a quarter, we dashing. The flawless diamonds in the border, we flashing. The money we oughta be stashing. I make sure every quarter be cashing. I can't really explain. My friends be thinking I'm slipping. These girls be thinking I'm tripping. What kind of weed you be smoking? What type of drinks you be sipping? Sweet thing, just to think of you dipping. What had me with the blues so hard, you would think I was crippin'. Now, you relaxin' in the Benz, credit cards with no limits, so you don't worry about maxin' when you spend. But since you been asking about the friends, how'd you like it if both our names had Jackson on the ends? Girl, the way you cook a steak remind me of them strips and roof crisps. You love my smile, no matter how chipped my tooth is. With you, it ain't because my whips is ruthless. So sit on chrome, dipped up deuces. And you ain't flattered by canary envious. Dip taste sousis. Cover ballers look dumb when they press you. Fives and sixes, you don't let them count the numbers impress you. Even though I was somewhat successful, me and a player was becoming too stressful. But ever since, the superwoman has come to my rescue. My winter's been wonderful, my summer's been special. Let's fly the same bar while the villa be painted, just so we can get really acquainted. The love is real, there's no way it can feel like it's tainted, but I can't really explain it. Yeah.
De retour dans votre émission Partenaires en Lumière sur IDFM Radio aujourd'hui. Lumière sur les CMEA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, un mouvement pionnier de l'éducation populaire en France, mais pas que, et nous le découvrons tout au long de cette émission. Si vous avez manqué le début d'ailleurs, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet idfm98.fr, rubrique podcast, pour réécouter l'intégralité de cette émission. Ils sont toujours avec nous, nos invités du jour, Jean-Marc, président des CMEA Île-de-France. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Morgane, membre du conseil d'administration.
Bonjour à nouveau.
Slimane, de retour également, directeur CMEA Île-de-France.
Bonjour.
Et Fatia Apprenti, qui est toujours au micro d'IDFM Radio. Alors, on a présenté les CMEA, vos grandes missions, votre évolution aussi à travers le temps. J'aimerais qu'on parle plus en profondeur des valeurs, finalement, qui est, comme je l'ai dit hors antenne, votre colonne vertébrale, la colonne vertébrale de votre organisation. Alors, je ne sais pas qui va souhaiter répondre, mais les CMEA portent des valeurs, des principes forts comme l'émancipation, la promotion sociale, l'éducation active. Comment ces valeurs, elles influencent toutes vos actions aujourd'hui en Île-de-France ? On va rester côté Île-de-France, mais comment ça influe vos actions ?
Alors, je ne vais pas les citer, mais il y a 8 grandes thématiques qui définissent les grands principes des CMEA. Ce qui est important pour nous, c'est que, comme je le disais précédemment, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la formation pour accompagner les gens dans leur transformation. Et l'idée pour nous, Slimane le disait tout à l'heure, on est installé en Seine-Saint-Denis et c'est un choix. Pour autant, ce qui nous intéresse, c'est la mixité. Donc, les CMEA sont ouverts à tout le monde. Je dirais que la cheville ouvrière, ce qui nous porte, ces huit grands principes autour de la laïcité, de l'éducation pour tous. Et de ce fait, on a tout à fait intérêt à ce que notre mouvement de formation, nos formations soient ouverts à toutes et à tous. D'horizons différents, que ce soit ethnique, catégorie socio-professionnelle, parce que c'est ça qui fait la richesse. Et je le dis tout de suite, c'est pas Slimane qui me contredira, une très grande volonté d'exigence. On offre la possibilité à des personnes Fatia le disait un peu tout à l'heure, sont parfois sortis du système scolaire ou ont du mal avec le système scolaire. On leur permet de revenir se former. Pour autant, il y a un très grand niveau d'exigence. On ne veut pas former des gens au rabais. Oui. Voilà. Donc voilà un peu dans les grandes lignes ce qui nous porte.
Slimane, tu veux rebondir sur ce que vient de dire Jean-Marc ?
Bien sûr, c'est super important parce que là, on est sur l'aspect formation. Et en effet, nous, on sait très bien que certains appelleront ça des paris. Pour nous, c'est pas des paris que certains de nos stagiaires n'auraient pas eu la chance d'intégrer le même type de formation dans d'autres organismes de formation. Mais la volonté d'être sur ce territoire, c'est parce que on croit aussi en cette population, j'allais dire, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, ces personnes-là, on sait qu'elles sont capables, et ce qui les rend capables aussi, c'est le groupe, c'est lorsqu'elles sont ensemble, et l'erreur pourrait être de penser que l'éducation populaire est réservée au quartier populaire, et je pense que c'est quelque chose, c'est important de le signifier, ce qui rend populaire l'éducation, c'est cette croisée, entre guillemets, des regards, des expériences, nous, au niveau... Des principes qui peuvent être les nôtres, en tout cas dans ce qui nous anime au quotidien. Je prends l'exemple de l'OF, l'organisme de formation à Aubervilliers. On peut y croiser tout type de personnes. Et c'est ça qui est, moi, le matin, quand je viens travailler et que je croise, on a beaucoup de questions autour du voile de certains stagiaires ou du foulard qu'elles ont sur la tête, que cette stagiaire-là discute avec quelqu'un qui peut être, au moment où il est en formation ou elle est en formation, en transition de genre. Pour moi, on a tout gagné. Qu'elle soit d'accord, pas d'accord. Après, nous, on peut les amener et les accompagner à réfléchir différemment et eux s'autoriser à réfléchir avec une forme d'émancipation aussi. Et ce qui est important pour moi sur cette question des principes et des valeurs, c'est qu'on soit moins non, parce que c'est qu'on limite grandement les mots et qu'on soit plus dans des actes. Il y a plein de beaux slogans. On va parler de promotion sociale, on va parler de tellement de choses. Oui. Mais si à un moment donné c'est pas réellement incarné, si à un moment donné ça s'argumente pas par des faits concrets, on va rester que dans la théorie. Et c'est important pour que on soit légitime aux yeux des personnes qui nous voient, qu'on ne soit pas uniquement des théoriciens, mais que notre réalité de tous les jours soit en phase avec ces principes et ces valeurs là.
Alors une formation aussi tout au long de la vie, j'ai envie de dire accessible un peu. Tu disais à à tout temps, de quand on a envie, on vient et on peut avoir des infos et se continuer de se former. Est-ce que ça aussi c'est important?
Mais qui arrête de se former? On y voit là l'aspect formation, diplôme, mais nos regroupements militants ont cette connotation-là. Alors c'est pas forcément il y a où est-ce qu'on situe la formation de l'information et toutes ces choses-là. Mais je pense que on est toujours en mouvement sur ces questions, un peu comme ce qu'on se disait sur l'éducation nouvelle. Il y a des choses que tu sais à 30 ans que tu crois savoir à 35 et que tu te rends compte que tu ne savais pas et que tu découvres des nouvelles choses à 40, 45. Donc c'est bien sûr que c'est primordial. Et on a aussi un rôle au niveau de l'intergénérationnel aussi. On joue un rôle là-dessus. C'est important que dans les espaces qui sont les nôtres, tout le monde puisse avoir la parole. Tout le monde avec son expérience de la vie, son regard, ses différentes expertises, sans que certains soient en sachant et d'autres soient en apprenant. Sinon, on aurait dévoyé notre identité même. Donc, c'est important au niveau intergénérationnel d'être dans cette... Et puis, sincèrement, on rencontre pas de gros freins là-dessus. Les gens apprennent à s'écouter. On parle du vivre ensemble. Il est aussi intergénérationnel. Et je pense que c'est indispensable d'être à ce rendez-vous-là.
Alors, Fatia, moi, je vais me tourner vers toi. Tu disais tu m'as confié en hors antenne que tu avais fait ton BAFA dans un autre centre de formation. Maintenant que tu peux comparer, qu'est-ce qu'il y a de plus au CMEA?
Faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle dise, là.
Je ne pourrais dire que du bien.
Non, mais qu'est-ce qu'il y a de plus?
En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, ça fait plusieurs fois qu'on parle de pédagogie institutionnelle. Pédagogie institutionnelle, c'est vraiment le fait que les personnes prennent en main l'institution. Les personnes qui vivent dans cette institution, en gros, prennent en main l'institution et les décisions, etc. C'est quelque chose qu'on fait énormément au BAFA. On en discutait justement hors antenne sur tout le monde se rappelle de sa formation BAFA. Et on est encore plus, parce que c'est les CMEA, je pense, en tout cas c'est mon point de vue, focalisé sur le groupe et justement cette dynamique de groupe et comment est-ce qu'on prend des décisions, comment est-ce que finalement on est acteur de sa formation. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé dans le centre de formation où j'ai fait mon BAFA, mais c'est quelque chose qui est constamment présent au CMEA et en tout cas dans le maximum de formation et dans le maximum d'instances. En fait, on a plein d'instances qui sont là pour justement pouvoir permettre à tout le monde, et c'est ce que disait Slimane dans le côté intergénérationnel, que tout le monde se mélange, c'est aussi dans les prises de décision sur ta voix, elle vaut pas moins que celle de quelqu'un d'autre. Et ouais, je pense que c'est ça. Et après c'est l'effet CMEA, hein, moi je...
Morgane, tu veux rebondir?
Ouais, je peux compléter un petit peu, parce que on a mentionné effectivement que les CMEA étaient un organisme de formation, c'est aussi une association d'éducation populaire et un mouvement d'éducation nouvelle. Et en fait, les trois sont mêlés, parce qu'on va avoir des formats différents de formation, notamment on va avoir les formations longues chez nous qui sont diplômantes, mais on peut avoir aussi des formations courtes sur des thématiques diverses et variées où on va accompagner des jeunes, des moins jeunes. Et en fait, la force des CMEA, elle est dans à plusieurs niveaux. La première, Fatia en a parlé, mais la question du collectif. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet autour de c'est quoi faire collectif. Et en fait, un cas pratique d'une semaine de stage BAFA où en fait on est avec des gens qu'on ne connaît pas, et à la fin, voilà, c'est l'effet colonie de vacances où en fait à la fin on se dit mais on va vraiment se quitter. Il y a un vrai sujet. Et après, c'est dans le mouvement d'éducation nouvelle au sens des pratiques pédagogiques qu'on met en place. Parce que la question de prendre des décisions, on le voit très bien, il y a des personnes qui ne se sentent pas légitimes à le faire. En fonction du genre, en fonction de son origine sociale, il y a plein de facteurs sociologiques qui permettent de l'expliquer. Et en fait, au CMEA, ce qu'on essaye de faire, je pense, et en tout cas, c'est pour ça que je défends ce mouvement, c'est de dire, en fait, on a ce groupe-là. Dans ce groupe, aujourd'hui, il y a des gens qui ne se sentent pas de prendre des décisions, qui ne se sentent pas légitimes. Et comment on fait pour légitimer une parole? Comment on fait pour que quelqu'un puisse donner son avis sur un sujet? Et pour ça, en fait, l'animation, qui est le cœur un peu des CMEA, est hyper importante. Et du coup, quand on a vécu ça, je pense que à plein d'instants, dans d'autres espaces de formation, dans d'autres espaces de réunion, etc., avec des partenaires extérieurs, on se dit « Ah, waouh !» C'est vrai qu'en fait, c'est la patte CMEA. La patte CMEA, c'est ce moment où les réunions, elles sont aussi encadrées, que la question de la prise de la parole, c'est un sujet, que la question de l'accueil en est un aussi. Au CMEA, on défend la question de l'accueil. Ça veut dire qu'en fait, une personne dans un collectif, elle existe. Il y a différentes individualités. Le but n'est pas d'être dans l'individualisme total, mais en attendant, tu existes. Et en fait, le collectif te permet d'exister. Et donc, voilà, c'est toutes ces choses qui font que je pense qu'il y a cette patte CMEA qui revient et qui fait que nous revenons en fait aussi, je pense.
Et finalement, votre force justement, c'est d'être un mouvement militant, c'est d'être un centre de formation, d'être une association. Et je pense que les trois, c'est les ingrédients. Alors, j'ai pas envie de dire de la recette magique, mais les trois ingrédients primordiaux de se sentir bien et de se sentir utile. Et moi, pour avoir assisté à une matinée, mais c'est vrai que vous organisez des journées d'études, ça vient aussi dans ce sens-là, donner la parole, écouter, donner de l'importance à chaque individu.
Bien sûr, bien sûr. Et c'est aussi, je pense, primordial. Quand je disais être en adéquation avec les réalités de terrain, une formation longue ou pas, on pourrait la théoriser, elle serait bâclée, elle serait réglée. Et on essaye, en tout cas, de donner du sens à ce qu'on théorise, parce qu'il y a des moments de théorie aussi dans ces formations. Mais on essaie de donner du sens. La journée d'études en question, je crois que c'était celle sur les RICS, avec Marwan Mohamed qui était invité sur cette formation-là, étaient présents ceux qui étaient en formation autour de l'animation et autour du travail social. On ne dissocie pas les deux, en fait. À un moment donné, c'est quand tu viens de former, malheureusement, le sujet d'Eric, c'est un sujet qui nous frappe quotidiennement, presque, j'ai envie de dire, sur le territoire national et aussi pas mal en Ile-de-France. Et comment est-ce que toi, stagiaire au CMEA, mais ces journées sont aussi ouvertes et surtout ouvertes aux militants, comment est-ce que tu peux être assez outillé pour au moins réfléchir autour de cette question-là? On sait que d'un claquement de doigts, on aimerait bien, mais que il y aura encore, exactement. Mais voilà, que cette réflexion soit ouverte. D'ailleurs, suite à cette journée d'études, il y a des stagiaires qui nous ont sollicité avec des réflexions autour d'associations de proximité vers pas trop loin de chez eux, savoir comment est-ce qu'on pourrait réfléchir des choses et via notre centre de ressources, parce qu'il y a un centre de ressources, il y a des choses qui sont en train d'être pensées pour justement, on a théorisé une formation et il y a eu les méthodes CMEA, on l'a confronté entre guillemets à la réalité d'une journée d'études autour d'une thématique et fait le lien avec les référentiels des formations et le terrain, et puis comment on agit derrière.
Et ce qui est important aussi, et ce qui est marquant chez vous, c'est, je pense, que comment on peut être un individu dans une société, faire sa place, réfléchir et être acteur. Est-ce que c'est ça aussi l'objectif? C'est
Oui, c'est ça. Jean-Marc. Quelqu'un qui est passé par les CMEA et qui n'a jamais entendu le terme « agir » n'était pas au CMEA. Ça n'est pas possible. On est comme toutes les organisations, on jargonne, mais le mot et le terme « agir », il est vraiment prépondérant. Il n'y a pas d'antagonisme avec l'éducation nationale, parce qu'y compris, il nous arrive de travailler avec l'éducation nationale. Mais agir, ça veut dire prendre en compte le groupe, prendre en compte l'individu dans le groupe, et ça veut dire être en capacité de ne pas être figé dans sa manière d'apprendre ou de participer, et de ne pas se sentir contraint. Et effectivement, comme ça a été dit précédemment, l'intérêt pour nous, c'est que des personnes qui ne se sentent pas légitimes, qui ne se sentaient pas légitimes, puissent, au fur et à mesure, trouver leur place, et que ce soit au CMEA ou ailleurs, s'autorisent à... Alors, les journées d'études permettent aussi de... On fait toujours le lien entre théorie et pratique, et donc on apprend des choses, on les rebat avec ce qu'on a appris, on se forge son expérience... Et son avis au fur et à mesure, et de ce fait on se sent capable de pouvoir intervenir, et juste pour sans dévoiler aucun secret, en tout cas ma trajectoire à moi, elle est celle-là. Ma trajectoire à moi, elle est quelqu'un qui est passé par des étapes où qui n'avait pas forcément de diplôme, et puis qui a appris, qui est revenu, qui a réappris, qui est parti, qui du coup a pris de la confiance pour aller à l'université. Donc voilà, c'est notre boulot, c'est ça, c'est que les gens soient autonomes, se forment,
puis grandissent. Il n'y a pas un chemin tout droit. On peut faire un peu marche arrière, tourner à droite, aller à gauche et revenir et repartir.
Tout à fait. Et la question de l'échec, elle est importante du coup. Voilà. Est-ce que vraiment c'est un échec, ou est-ce que on a tenté quelque chose et puis ça a permis de comprendre autre chose?
Tu voulais réagir,
ouais,
Fatia?
Juste pour compléter, nous, il y a en stage BAFA, il y a plein de fois, on leur dit, il va falloir prendre une décision, il va falloir réguler, il va falloir, et quand ils font leur réunion, souvent en fin de journée, pour savoir ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on change pour le lendemain. Dans les premiers temps, on leur dit c'est important que le groupe prenne pas le dessus sur l'individu, mais que l'individu prenne pas le dessus sur le groupe. Et on voit dans leur regard, il y a toujours un moment de ah mais comment je fais, c'est trop compliqué. Et on revient sur l'exigence que Jean-Marc disait tout à l'heure. Ils se rendent compte que finalement vouloir penser comme ça, c'est être aussi exigeant avec soi-même. Et donc du coup, on rentre dans des démarches et des pédagogies plus spécifiques. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste du ah venez, on essaye de trouver des solutions ensemble. Il y en a un qui prend la parole là, c'est des choses bien accompagnées. Et d'où le fait que souvent on a des jeunes qui effectivement viennent parce qu'ils ont eu un parcours où il y a eu un échec scolaire ou peu importe. Hein, mais ils viennent au BAFA, enfin c'est leur première entrée. Et ensuite, de par le fait qu'ils ont vu l'exigence et qu'ils se sont dit « Ok, j'ai une place », et ben on les retrouve sur des formations d'éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, ou dans l'animation. Et je pense, en vrai, c'est le cœur un petit peu de ça. C'est quelle place vous avez. Mais attention, le groupe existe, mais l'individu existe. Et c'est trouver le juste milieu entre les deux.
Alors, ce que tu dis, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on aime bien faire des bilans, ou j'en ai parlé aussi un peu en interne avec Morgane, où je disais, mais est-ce que t'as un exemple de cas où vraiment il est entré et peut-être c'était un échec et qu'il a, voilà, aujourd'hui il a une place particulière dans la société ou un poste particulier. Est-ce que vous avez, voilà, un profil comme ça qui vous vient en tête? Alors, sauf vous, parce que c'est vrai que...
Ce que j'allais dire autour, voilà, de la table, là, pour le coup.
Il y a vous, déjà, et voilà, Slimane, on en parlait aussi, hein, échec scolaire, et puis finalement, tu es aujourd'hui directeur des CMA Île-de-France, centre de formation, enfin...
Alors oui, alors si c'est sauf nous, oui, bien sûr, mais je pense que c'est ça pourrait être réducteur d'avoir un exemple.
Oui,
même
oui,
si
bien
c'est,
sûr.
Alors, parce que c'est pas notre quotidien, mais... Et puis... Quand ils passent la porte de notre association, nous, on ne les voit plus comme des personnes qui ont échoué. Pour nous, ils n'ont pas échoué. J'ai un exemple, je vais peut-être me décaler un petit peu, mais je suis membre du conseil d'administration d'une autre association, l'association Apart à Tremblay. Et avec Jean-Marc, on avait été voir l'une des restitutions d'un de leurs projets. Ils bossent autour de l'insertion professionnelle à travers le sport et l'activité de pleine nature. Et ils accompagnent des jeunes dans leur construction de projets pro. Et en parallèle, ils vont gravir un mont. Okay. Et ils partent du principe que si t'es capable de monter sur une montagne à l'autre bout du monde, tu vas pouvoir trouver un emploi. T'en fais pas. Et donc sur la restitution, plus les étapes avancent, plus il y a des jeunes qui arrêtent parce que tout le monde n'arrive pas au sommet.
Ouais.
Et au moment du question-réponse après la projection, quelqu'un demande comment avez-vous vécu l'échec. Et là, il y a le jeune qui répond mais comment vous pouvez me parler d'échec? Je suis monté à plus de 5000 mètres. Alors ouais, certes. J'ai pas été à 5003 mais comment, quand on monte à 5000 mètres, on peut qualifier ça d'échec? Et lui disait, mais pour moi, c'est une réussite absolue.
Ouais.
J'étais dans mon, et donc voilà, en fait, c'est la couleur qu'on veut donner aux choses.
C'est vrai qu'on veut absolument mettre soit ça, voilà, soit tu réussis, soit tu
échoues. Exactement.
Alors que c'est un peu gris aussi parfois, oui, Jean-Marc.
Oui, non, mais pour être dans la continuité de ce que dit Slimane, la question de la réussite, elle est toute relative. Il y a, on dirait, la réussite sociale, ce qui se voit. Je donne souvent cet exemple, je vais pas citer son nom parce que j'écoutais un jour la radio et j'entends un grand réalisateur français qui dit je suis passé par les CMA.
Ah. Alors,
je me suis dit mais comment c'est possible, et plus ça va et plus on se rend compte en fait qu'il y a énormément de gens qui sont passés par les CMA. Alors, ils ont plus ou moins appris des choses. Donc, ce grand réalisateur, pour le coup, on est sur de la réussite sociale. Et puis, pour d'autres qui sont pas, visibles du grand public, il y a les petites réussites du quotidien de je suis peut-être pas allé au bout de mon diplôme, ou je suis allé au bout, ou je prenais pas la parole et maintenant je la prends. Je me sentais pas légitime, je me sens plus légitime. Voilà, ça fait partie de toutes les réussites.
Morgane, tu voulais
Oui, pareil, puisque on en a parlé un peu hors antenne. Je pense que c'est toujours très compliqué d'évaluer les choses, et donc j'espère que nous n'avons pas, en tout cas je ne pense pas avoir la prétention de dire que quand j'ai été formatrice sur une sur un stage, la personne a changé grâce à moi. Non. Je pense que la force des CMA, c'est effectivement de dire que il y a du possible. Après, il y a et c'est aussi ce pourquoi on défend les CMA, c'est-à-dire qu'en fait tout individu est lié à tellement de facteurs, des facteurs sociaux, d'environnement et de plein de choses. Et donc, nous on est un des facteurs. Donc, si une personne elle va engager un esprit critique par rapport à une situation, qu'elle va enregistrer une émission radio, parce que finalement c'est quand même c'est aussi un sujet. En fait tout ça, oui, je pense que ça fait partie du processus. Et donc la réussite, oui, c'est très subjectif, ça dépend de chacun et de chacune et de ce qu'on se donne aussi comme objectif de réussite. Et donc c'est pas figé. Et je pense que la vie est un long processus où nos objectifs vont changer au fur et à mesure de notre vie. Et donc les CMA permettent, je pense, de se dire c'est ok de changer d'objectif. Il n'y a pas une façon de concevoir la réussite sociale, il n'y a pas une façon de concevoir la réussite financière, éducative, enfin, peu importe. Et donc ça, c'est hyper important. Et donc on parlait de nous, mais je pense que c'est important aussi de l'illustrer par ce qu'on a vécu. Moi, je me permets de dire que je suis rentrée au CMA en stage de fin d'études, que je pense que je ne retrouverai certainement jamais la confiance qu'on m'a donnée, c'est-à-dire une confiance énorme dans les missions que j'ai eues. Et que se retrouver si jeune à se dire... ouais, il faut qu'on enregistre une émission radio, il faut qu'on parle d'un sujet alors qu'on a l'impression qu'on ne maîtrise pas, mais en fait, pas finalement, un peu si. Mais c'était la question de la légitimité. Et les CMA, moi, en tout cas, m'ont apporté cette question où aujourd'hui, je me retrouve à enregistrer une émission radio et tout va bien. La question de déstresser, la question de se dire, aie confiance en toi et en ce que tu fais aussi. Et ça, c'est hyper important, c'est hyper précieux, en fait.
Alors moi, j'ai envie de vous demander aussi, hein, pour que les auditeurs se rendent compte, qu'est-ce que vous apportent les CMA et qu'est-ce que vous avez, j'ai pas envie de dire l'impression, mais qu'est-ce que vous apportez aux CMA? Parce que si vous y êtes, c'est pour quelque chose. C'est pas philosophique, c'est factuel aussi. Hein.
Je vais me lancer.
Jean-Marc, là, je te sens bien.
Alors, la première expression qui me vient, c'est don et contre-don. J'ai appris beaucoup de choses avec les CMA, ça m'a apporté beaucoup. Et aujourd'hui, dans les fonctions que j'occupe, j'ai l'impression de restituer, de rendre ce que j'ai appris. Et donc, il y a une forme de transmission, il y a une forme de passage.
Comme un devoir.
Oui, vraiment. Et alors, avec Slimane, on s'appelle au moins une fois par jour.
Ok.
Tous les jours. Jour de fête. Parce que c'est un boulot
ça
de fou.
Ça fait partie intégrante, en fait, de vous.
C'est un boulot de fou. Et à chaque fois, on s'appelle, on se dit, ça va, je te dérange pas. Et l'autre dit, non, ça monte, tu ne me déranges pas.
Et, sous la douche. Et
voilà. Mais vraiment.
C'est déjà arrivé.
Oui, c'est ça, le don et le contre-don, et c'est continuer à faire vivre cette association. Slimane le disait, il y a un renouvellement constant. Et moi, par exemple, mon job, c'est d'assumer cette présidence et de faire en sorte que chacun y trouve sa place et qu'un jour quelqu'un prenne ma place.
Que ça vous dépasse, en fait.
Oui.
C'est clairement ça, hein, parce que moi j'ai le sentiment de beaucoup plus recevoir que de donner en venant bosser ici. Vraiment, j'ai vraiment ce sentiment-là. J'ai la chance de pouvoir, quand je parle boulot ou aussi bien à la maison qu'avec mes amis ou quoi que ce soit, quand j'explique ce qu'on est en train de se dire là, autour de moi, ils me disent, t'as de la chance en fait.
Ouais.
Et donc voilà, de pouvoir justement être dans ça. Alors oui, ça prend beaucoup de temps. Oui, mes congés tiennent pas toujours. C'est la réalité.
C'est l'investissement.
Et puis ça a un impact sur mon quotidien perso aussi. Mais ça fait partie des fameux équilibres aussi. Je pense que autour de la table, on est tous des personnes engagées à un certain niveau. On a rencontré les CMA pour s'engager parce qu'on croit beaucoup dans ce projet politique dont parlait Morgane tout à l'heure. Mais sincèrement, moi, je pense être vraiment un chanceux de pouvoir me dire que la personne qu'on a touchée sur tel projet ou le petit jeune qui ne pensait jamais pouvoir remettre les pieds à l'université, mais dans le cadre d'une double diplomation, aussi bien sur le DE que sur la formation EduxP, mais dans son parcours, il dira « j'ai rencontré les CMA, c'est devenu possible ». Pas parce que les CMA, mais parce que tout l'écosystème qu'on construit rend ces choses-là possibles. Exactement. Et donc vraiment, moi j'ai vraiment le sentiment de recevoir beaucoup plus et je me sens chanceux.
Morgane ?
Ouais, je vais rebondir sur mais je vais rebondir un peu sur le facteur chance parce que, pour moi, c'était une chance de croiser les CMA. De par le nombre de personnes que j'ai rencontrées depuis ces 5 dernières années, à échelle française, à échelle européenne et internationale. Oui. Je l'ai énoncé en début d'émission, j'ai été salariée permanente, en fait, des CMA au niveau national pendant plusieurs années. Je les ai quittés récemment,
aujourd'hui, tu es bénévole.
Totalement. Militante. Militante bénévole. Ouais, je les ai quittés aussi parce que je me suis vraiment dit, j'ai envie que quelqu'un d'autre vive ce que j'ai vécu. Pourquoi? Parce que c'est une chance énorme. Enfin, moi, j'avais 23 ans quand j'ai déboulé là-dedans, dans cet énorme mouvement. Et en fait aujourd'hui avec du recul je me dis mais waouh, enfin en fait je connais des gens en Pologne, je connais des gens en Allemagne, enfin j'ai une capacité et je suis hyper à l'aise quand je me déplace aujourd'hui. Et en fait je parle un peu de moi mais quand j'ai pris ce boulot là, il y avait vraiment une question de chance et au fur et à mesure ça devient presque un privilège. Parce que du coup on est la seule à bénéficier un petit peu de ça et donc moi je me suis vraiment dit les CMA m'ont beaucoup donné moi aujourd'hui. Bah, ce que je peux redonner, c'est ça, en fait. C'est que quelqu'un ou quelqu'une puisse vivre ces expériences incroyablement magiques qui font qu'on prend confiance en soi. Moi, les CMA m'ont vraiment donné confiance en moi et m'ont fait me dire, dans ton monde, enfin dans tes choix professionnels et dans tes choix de vie, tu peux décider de choisir à certains moments donnés de ta vie, en fait. Alors après, on a des situations de vie totalement différentes et on va pas revenir sur la sociologie, mais il y a vraiment cet enjeu-là, je pense, de se dire oui, tu peux faire ce choix-là, t'as le droit en fait de le faire, et ça c'est vraiment une force des CMA. Et j'invite nos auditeurs et nos auditrices, en tout cas, si à un moment donné vous croisez les CMA parce que vous avez un pléthore de façons de pouvoir croiser les CMA,
oui, c'est vrai.
c'est les gens qu'on y rencontre. C'est une richesse énorme. Parce que moi, tous mes moments au CMA, alors là, on est en train de, c'est l'utopie des CMA quand on en parle dans cette émission
donne
radio.
Envie, ça donne envie d'y aller tout de suite, quoi.
Évidemment qu'il y a des choses qui s'y passent, c'est logique. Rien n'est parfait dans la vie et la vie n'est pas binaire. Je vous le souhaite en tout cas. Mais il y a vraiment cette force de la rencontre et de se dire en fait quand on passe au CMA, oui, en fait on rencontre des gens super chouettes, quoi. Et des gens qui ont des profils hyper différents aussi. Enfin, on l'a dit, mais dans leur choix de vie personnel, dans leur choix de vie professionnel, et en fait avoir cet espace-là avec des personnes qui portent les mêmes valeurs, parce que la différence, elle se fait là. Enfin, moi, j'ose espérer que les différences ne sont pas sur les valeurs qu'on porte, en fait. Après, il y a plein de différences de vie, et c'est logique. Mais quand on arrive dans un endroit où il y a 500 personnes et qu'en fait ces 500 personnes, elles portent les mêmes valeurs, c'est hyper rassurant aussi, surtout dans les temps actuels.
Oui, c'est vrai. Ça donne un peu de baume au cœur, comme on dit. Fatia, est-ce que tu veux, toi, nous donner un peu...
Je peux essayer. Je suis pas sûre d'avoir encore assez de recul sur tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que moi, les CMA, ils m'ont énormément apporté. Je pense que j'ai pris autant en connaissance que ça a fait changer ma personne aussi. Et du coup, je pense que j'essaye de donner au quotidien, en fait, dans mon quotidien, que ça soit en formation ou pas, de pouvoir, et je reste sur ce truc de don et d'être, hein, de pouvoir redonner un petit peu, ce qu'on m'a donné. Et je pense que en toute humilité, pardon, c'est des choses qui interviennent sur des petites choses de temps en temps où on se dit, ah, peut-être que là, cette discussion, elle a servi à quelque chose avec cette personne. Ah, peut-être que là, cette connaissance, elle a été partagée, il y en avait besoin. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, c'est le peu de recul que j'ai dessus.
Bon, en tout cas, j'espère que ça a donné envie aux auditeurs de s'intéresser au CMA, d'aller regarder un peu sur le site internet, hein, tout ce que vous faites, parce que c'est vrai qu'en une émission, bien évidemment, même en 5 émissions, bien évidemment, qu'on n'aura pas le temps de tout balayer. Mais en tout cas, là, pour le coup, c'est vos vécus et c'est concret, quoi.
Ouais, et c'est peut-être le moment de dire à toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous écouteront peut-être
en replay,
et s'ils ont envie de réfléchir, d'agir, de participer, notre porte est toujours grande ouverte, en fait.
C'est journée porte ouverte tous les jours.
Et quasiment.
Donne les horaires, Slimane.
C'est ça.
Je crois qu'il y a des horaires quand même. On peut pas, voilà.
Eh ben, il y a des horaires, mais c'est des horaires un petit
de
peu,
bureau.
J'ai envie de dire de. Mais même les horaires sont atypiques. Même les horaires sont hyper atypiques. Le pédago qui accompagne un stagiaire qui rencontre des difficultés va très volontiers et très souvent de sa propre initiative pousser, prolonger un petit peu. Donc bien sûr qu'après c'est des horaires plus conventionnels pour cette prise de contact, mais il y a des mails où ils peuvent appeler directement.
Oui, ou le site internet, il y a les réseaux sociaux, enfin on peut voir tout ce que vous faites et vous envoyer un petit message.
C'est
et
ça.
Vous, vous
en tout cas, c'est possible. C'est possible,
tout est possible
que ces personnes nous contactent exactement et on réfléchira ensemble et c'est vraiment les bienvenus.
Eh bien écoutez, on va faire une seconde pause musicale et on se retrouve dans quelques instants toujours à la découverte des CMEA Île-de-France. À tout de suite.
Non, celle-ci pour mes frères et sœurs qui savent qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une chose à faire. C'est l'unité. Watch me now. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Marchons car unis, nul ne nous fera taire. La voix des bas-fonds passe au-delà des frontières. Le son résonne du paradis jusqu'aux enfers. Oh, oh, oh. Ayons les pieds sur terre et surtout l'esprit ouvert. La route tourne pour tous, de pasteur au gangster. La route est longue, donc l'union salutaire. Oh, 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 oh. Dieu sait qu'à la fin, les premiers seront derniers. Place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas, non, nous n'aurons pas de faille. Yeah, yeah. Unis jusqu'à la fin, riche ou dans la misère, soudés par la passion, quelles que soient les galères. Ici chacun est le gardien de son frère. Oh, oh, oh. Marchons levant la tête, tout sera plus clair. Demain sera nôtre, à nous de changer d'air. L'union est l'arme du prochain millénaire. La la merci, yeah. Je prie pour le futur et pour des jours plus clairs. Sachant que des ténèbres jaillira la lumière. Laisse-moi prêcher l'unité pour nos frères. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau.
Vous êtes de retour dans votre émission Partenaire en Lumière sur IDFM Radio. Aujourd'hui, Lumière sur les CMEA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Un mouvement pionnier de l'éducation populaire en France, mais pas que. Et nous le découvrons tout au long de cette émission. On arrive dans cette dernière partie d'émission, toujours avec nos invités du jour. Jean-Marc, qui est président des CMEA Île-de-France. Morgane, qui est membre du conseil d'administration. Slimane est aussi avec nous. Il est directeur des CMEA Île-de-France. Et Fatia, apprenti des GEPS, diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Alors, on a présenté les CMEA, leur création. Alors, bien évidemment, on n'est pas entré dans les détails, mais si les auditeurs souhaitent avoir plus de détails, bien évidemment qu'il y a toutes les informations sur Internet. On a parlé de vos grandes missions et de votre évolution à travers le temps. On a évoqué aussi les valeurs qui sont le fil rouge de toutes vos actions et de tous vos projets, mais également de votre vie associative. Est-ce que on peut parler plus concrètement du volet formation? Slimane, je pense que ça va être avec toi qu'on va en parler, de toutes les formations que vous proposez et de surtout comment on peut retrouver ces formations-là.
Alors, ça va être moi et ça va être avec Fatia aussi, parce que oui, Fatia, elle a la double casquette en plus d'être et formatrice et actuellement apprenante au CMEA Île-de-France. Je disais, la grosse particularité de notre organisme de formation qui voit quand même passer plus de 1500 stagiaires par an, je pense que même en 2024.
C'est énorme, hein.
Oui, c'est bien sûr. Ouais, non. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, ces stagiaires-là vont se retrouver dans la fonction, vont agir sur la société, parce que les métiers sont des métiers où on agit, et puis leur ADN commun, entre guillemets, dans la partie formation, c'est les CMEA. La particularité, nous, c'est que on est sur un double volet côté formation. On s'autorise à être du côté travail social, donc on forme des moniteurs éducateurs, des éducateurs spécialisés et des CAFERUS. Ces CAFERUS, c'est les chefs de service des établissements du médico-social. Et on est aussi du côté de l'animation. On est aussi du côté de l'animation avec le BPGEPS et le DEGEPS, donc du côté animation professionnelle pour le coup. On se trouve aussi du côté de l'animation volontaire, et là c'est le secteur de Fatia, sur du BAFA et du BAFD. Ce qui est aussi important de rappeler, c'est que deux de ces formations que je viens de citer, une du côté travail social et une du côté de l'animation, sont proposées en double diplomation. Et pour nous, ça c'est pas anodin. C'est que si tu viens passer un DEGEPS au CMEA, tu le passeras avec une licence sciences de l'éducation. Donc on est en partenariat avec l'université de Nanterre. Tout à l'heure, on parlait de nos différents engagements. Recoller avec l'université, recoller avec une licence. Arriver et pas trop savoir si tu es à la hauteur, et tu es aussi dans une réflexion qu'on a essayé de te mettre dans la tête de t'es pas capable, ou la réussite, et ces questions-là, c'est pas anodin. Et ce qui a été aussi intéressant, c'est que étant donné qu'on est sur des méthodes d'apprentissage assez atypiques, malheureusement, au niveau de la société, où on tente beaucoup d'expérimentation, de méthodes actives, tout ce qui va avec, ça a été aussi de se dire ces méthodes d'apprentissage à l'échelle d'une double diplomation, lorsque nos stagiaires vont devoir valider une licence, est-ce que réellement on arrive à passer ce step-là, et on se rend compte que absolument,
ça match
complètement. Il y a pas nos taux de réussite n'est pas supérieur ou inférieur à n'importe quel autre taux de réussite. Donc sur ces questions-là, sur la partie formation, résumé entre guillemets. Sans rentrer dans les différents détails des formations, ce qu'on pense beaucoup aussi, c'est la transversalité dans ces formations. Pour moi, un moniteur éducateur, un éducateur spécialisé, il anime aussi un quotidien. Oui. Et un animateur, il est en première ligne sur des questions qui pourraient être uniquement qu'on pourrait penser à réserver du côté travail social. Il y a un écosystème à penser. Si on partage les locaux, si à certains moments on partage des contenus pédagogiques, s'il y a des moments qui sont ensemble, c'est que on se rend compte que le métier d'intervenant social, il faudrait arrêter de le cloisonner et de le réduire. Oui. Penser qu'un animateur jette une balle et demande à courir derrière,
il y a tout l'aspect vraie psychologie, réalité de la vie sociale, etc. Et c'est vrai que peut-être votre formation Elle matche aussi pour ça, que c'est beaucoup plus complet.
Et il y a cette complémentarité qui se crée entre justement les différents référentiels, la différente réflexion qu'il y a autour du métier. Dans notre cafétéria, quelqu'un qui passe son DE va discuter avec quelqu'un qui passe son diplôme d'éducateur spécialisé. Donc voilà, il y a cette particularité-là. Et une autre qui est importante pour nous, et c'est important de le dire, on a des formations qui sont diplômantes et accessibles sans le bac. Le BPJEP, c'est un diplôme de niveau bac. Le diplôme de diplôme d'état de moniteur éducateur est un diplôme de niveau bac. Mais pour ceux qui n'ont pas le bac, c'est le moyen de recoller. D'ailleurs, moi-même, j'ai recollé comme ça.
Ça, c'est intéressant de le soulever parce que beaucoup pensent qu'ils ne peuvent pas avoir accès à des formations parce qu'ils n'ont pas le bac. Donc, du coup, ils s'auto-sabordent.
Voilà, exactement.
Je m'arrête là et je fais rien.
Ouais, complètement. Et alors, surtout à la période de Parcoursup et compagnie, si j'ai pas eu l'orientation ou si même j'ai été accepté mais j'ai pas eu mon bac, il y en a beaucoup qui vont décrocher. Et donc, c'est important de le préciser. Ouais. Et c'est des bacs différents, en fait. C'est des bacs différents. Alors, c'est pas une formation au rabais, ça le sera jamais. Mais voilà, c'est peut-être une orientation qui permet de réfléchir différemment. Et sur cette question-là, on a une journée porte ouverte le 8 février. C'est pareil, c'est notre modèle de journée porte ouverte. Il est pensé de manière à ce que des stagiaires puissent être présents pour parler à des visiteurs de leur formation. Pour moi, ça n'a de sens uniquement si c'est les stagiaires qui, en tout cas, prennent un moment d'expliquer la formation, c'est ça, mais la formation au CMEA, c'est ça. Et là, on a, je pense, un enjeu et c'est hyper important de le faire sous ce format-là.
Oui, Jean-Marc.
Oui, deux choses tout de suite, parce qu'après, je vais oublier par rapport à ce que dit Slimane. Alors, je vais prendre deux minutes pour parler de moi, mais vraiment très rapidement. Moi, je viens de l'animation et j'ai après travaillé sur le travail social et la chance qu'on a au CMEA en Île-de-France, c'est d'avoir des formations dans ces deux champs-là. Et notre ambition, c'est d'être un centre de formation sur les questions d'intervention sociale. Et donc, pour avoir vu sur le terrain la difficulté que c'est de ne pas réussir à travailler ensemble. Parce que on ne se connaît pas, on ne se reconnaît pas. La possibilité pour nous, c'est dès la formation de poser les ponts tout de suite pour être en capacité de que sur le terrain ensuite, les gens puissent travailler ensemble. Bon, j'avais une deuxième idée, je l'ai oubliée, mais elle va revenir.
Slimane.
Non, juste pour compléter et conclure ce que je disais tout à l'heure, je sais plus si c'est sur la première partie de l'émission ou la deuxième, on parlait d'incarner réellement des principes et des valeurs. Moi, la promotion sociale, c'est un mot que je trouve très beau et quand on essaye en tout cas de le mettre en place, ça le rend encore plus beau. Ces formations de moniteurs éducateurs et du BPJEPS, et comme celle du BAFA et du BAFD, je pense qu'elles participent à cette promotion sociale. On serait pas au rendez-vous de cette promotion sociale, en tout cas pas totalement, ou il manquerait énormément si on n'était pas là-dessus. Si quelqu'un qui n'a pas le bac pourrait pas participer à une de nos formations d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est important aussi de le dire, c'est que c'est le moyen de permettre à certaines personnes qui, pour diverses raisons, ont arrêté l'école en troisième, ont arrêté l'école en cinquième, mais vont pouvoir s'inscrire à une formation et découvrir des méthodes d'apprentissage différentes. Donc peut-être que le trait descendant n'a pas fonctionné ou le descendant n'a pas fonctionné et que là, d'autres méthodes vont fonctionner. Et à ce sujet, pour finir là-dessus, moi, je remercie aussi la région Île-de-France qui soutient l'organisme de formation, qui finance des places à disposition des franciliens. On a 30 places financées par le conseil régional d'Île-de-France sur la formation de moniteurs éducateurs. On a 47 places de financées par la région Île-de-France sur la formation d'éducateurs spécialisés. Et ça permet à, au total, 77 franciliens de pouvoir se voir financer cette formation au CMEA.
Oui, parce que il y a ce souci aussi d'accès à la formation du fait du tarif. Et c'est vrai que vous essayez quand même de trouver des solutions par rapport à ça. Moi, je me rappelle que mon BAFA que j'avais passé chez vous m'a été financé.
Bien sûr, bien sûr. Et puis là aussi, c'est aussi une réalité qui est importante. C'est on est sur un milieu où il y a une forme de précarité, et une formation coûte de l'argent, c'est sûr. On a un des salariés qui est rattaché à l'organisme de formation, mais qui a une action beaucoup plus large au niveau de l'association, qui accompagne les stagiaires potentiels à trouver des financements sur leur formation. Mais déjà, c'est 30 places sur la formation moniteur-éducateur et c'est 47 places sur la formation d'éducateurs spécialisés sont une plus-value extraordinaire en termes de promotion sociale et de soutien à donner la chance à quelqu'un qui n'en aurait pas eu les moyens.
Fatia, est-ce que tu veux dire un mot, toi, sur le volet formation des CMEA
Complété. Pour compléter un petit peu ce que disait Slimane sur le double cursus avec du coup la licence. En tout cas, moi, ma promo est arrivée avec beaucoup d'angoisse sur la licence parce que donc il y en avait qui avaient passé des licences déjà, d'autres licences. D'accord. Et d'autres pas du tout, ça s'est arrêté. Et en fait, on a eu un très bon accueil à Nanterre et on a même des profs qui nous ont dit nous on ne veut faire les formations avec les autres étudiants en L3 que quand il y a les CMEA parce que il y a ce côté un petit peu plus pratique et peut-être un peu de terrain qui
oui,
en fait
la vraie vie quoi
exactement vient mettre un petit peu vient donner des idées en tout cas aux autres étudiants. Donc oui, bien sûr, c'est enfin en tout cas le partenariat il est largement réfléchi et en tout cas on se sent pas en trop. Voilà, c'est une histoire aussi de légitimité, je pense aussi, de se dire ok, c'est bon, je suis à ma place et ça fonctionne bien. Et juste pour revenir sur les financements, en ce qui concerne le BAFA, le BAFD, il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau des départements, etc., pour justement l'aide au financement. Et après, nous, un de nos volets aussi, c'est justement de construire des partenariats avec les communes et pouvoir justement proposer des formations à beaucoup de jeunes et de moins jeunes sur l'animation volontaire à des prix largement réduits pour que justement ce soit accessible à tous.
En termes de projets, alors les projets des CMEA, je sais que Slimane, c'est un sujet qui t'importe beaucoup, comme tous les sujets d'ailleurs. Oui, Jean-Marc.
Oui, je avant que Slimane avance sur les projets, je me rappelle de ce que je voulais dire.
On a un petit astérix alors.
Oui. Alors, deux choses. La première, c'est que je profite de notre passage à l'antenne et je fais le lien avec le fait qu'on accompagne beaucoup d'apprenants. On est en train de travailler sur quelque chose qui s'appelle un alumni. Un alumni, c'est l'association des anciens qui sont passés par les CMEA. Donc j'en profite pour passer le mot à
mais
tous.
Mais Sabrina en fait partie en plus.
À tous, ceux, à tous ceux qui sont. Non mais
je le sais. Il y a pas un âge minimum.
Non, il y a tout le monde est. Non mais vraiment je le dis parce que l'alumni c'est aussi un écosystème pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas de réseau puissent en avoir un.
Oui, on parlait de l'importance du réseau.
Les alumni ça existe beaucoup dans les grandes écoles. Les CMEA ont la prétention de dire qu'ils sont une grande organisation. Voilà, on est à la fois modeste et ambitieux, mais je le dis comme ça. et du coup, plus on a de réseaux, et plus ça permet de faire à des personnes de trouver un stage, en particulier pour celles et ceux qui sont en apprentissage. Et la deuxième chose que je voulais dire, et c'est à mettre au crédit de choses qu'a mis en place Slimane, c'est que toutes les personnes qui passent par Parcoursup, même si quand elles passent les jurys, elles sont pas forcément retenues là où elles souhaiteraient être. On essaie au maximum de trouver une solution, soit parce que, par exemple, parce que on pense que la marche est peut-être trop haute et on propose la marche d'avant pour pouvoir accéder à l'objectif final. Voilà.
Très bien. Et donc l'alumni, c'est un projet qui l'alumni, va être
c'est
mis en place cette année ou
alors
c'est un appel qui fait Jean-Marc là tous les étudiants de l'Infop et du CFPES les anciennes dénominations qui vont nous écouter sachez qu'on est en train de penser ce projet là et
rapprochez-vous
exactement
des CMEA de France très bien pour passer au projet.
Alors les projets, il y a plusieurs espaces. Le premier, c'est vraiment l'espace institutionnel en lien avec l'organisme de formation. À un moment donné, comme je disais tout à l'heure, on va théoriser pas mal d'aspects, de concepts. On va en parler. On va avoir des petits groupes, des grands groupes, des méthodes actives et tout ce qui va avec. Le retour qu'on a eu de plusieurs de nos stagiaires, ils nous disaient, mais c'est très bien les CMA, c'est très bien ce que vous dites, moi je m'y suis retrouvé, mais quand je suis retourné au boulot, c'est pas du tout ce que j'ai vu. Et ça, pour nous, ça a été quand même hyper questionnant. Pour certains, limite, c'était de nous dire, vous nous avez menti.
Ouais, on est hors cadre là.
C'est ça, exactement. Et donc pour ça, on développe différents projets à l'échelle de l'association qui permettent, qui servent de terrain. Alors, certains appellent ça des terrains d'application. Moi, je suis plus sur le terrain d'expérimentation, où on va expérimenter. Mmh. Mais je contredis ni l'un ni l'autre. Hein, mais voilà, c'est à l'image d'un projet qu'on a sur la ville de Villiers-le-Bel, qui est soutenu hein, par la collectivité de Villiers-le-Bel. C'est le terrain d'aventure.
Oui.
Un terrain d'aventure, quand on entend ça, comme déjà, j'invite tout le monde à aller visiter un terrain d'aventure pour réellement comprendre ce que c'est un terrain d'aventure, parce que sans ça, on peut en échanger, mais ça n'a de sens que quand on le voit réellement. C'est vraiment un espace où le cadre général est défini, mais où l'enfant à l'intérieur va vraiment développer son autonomie, ne pas suivre un parcours précis ou prédéfini. Il va pouvoir justement s'adapter à son environnement dans lequel se trouve le terrain d'aventure. Chaque terrain d'aventure, nous on a 3 terrains d'aventure sur l'Île-de-France,
Donc il y a Villiers-le-Bel,
Saint-Denis, ouais, et Chennevières-sur-Marne.
Ok, sur le 77.
Dans le Val-de-Marne.
Val-de-Marne.
94.
Ouais.
Y en a pas un qui se ressemble, j'ai envie de dire. Ils ont tous leurs particularités. Okay. Ils se sont tous adaptés à l'environnement dans lequel ils se trouvent, et c'est hyper important. Et à l'intérieur là-dedans, mais les jeunes vont décider de ce qu'ils ont envie de faire. Et à partir de là, s'ils doivent manipuler des objets qui pourraient être dangereux. Type marteau, exactement. Ils passent des permis. Ils passent des permis d'utilisation. Et lorsqu'il y a assez de jeunes qui sont formés là-dessus, ben, c'est un jeune, un des gamins qui est présent sur ce terrain d'aventure, qui te fait passer le permis. Et donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins d'accidents. En tout cas, on n'a pas eu d'accident majeur. Et que dès lors qu'on autonomise, on fait confiance, on explique, mais ça roule. Et donc voilà, il y a un conseil des jeunes sur ces terrains d'aventure qui vont eux-mêmes décider, nous on aimerait bien faire une tyrolienne. OK, bon, on va essayer de construire une tyrolienne. On y arrive peut-être, ce qu'on se disait sur l'échec.
Ouais, peut-être que ça ne fonctionnera pas du premier coup, peut-être que l'autre groupe d'après va réussir.
Exactement.
Mais est-ce que ces terrains d'aventure sont ouverts à tous?
Alors ça fait partie de la charte des terrains d'aventure, ils sont ouverts à tous et gratuits. Voilà, c'est vraiment.
C'est bien de le rappeler, parce que terrain d'aventure, moi dans ma tête, j'ai voilà, t'arrives, tu payes l'entrée et tu vas t'amuser quoi.
Complètement. Et c'est un espace ouvert à tous de 0 à 1000 ans en fait, hein, parce que non, mais on se rend compte que tu sais, sur le terrain de Villiers, il est au quartier du Puy-la-Marrière.
Oui.
Y a même des mamans qui ont investi cet espace-là,
oui.
qui ramènent le goûter. Donc il y a des big goûters qui sont organisés par les habitants du quartier. Il y a beaucoup de matériel qui est présent. On pourrait penser, alors moi je suis pas surpris, hein, mais on pourrait penser qu'il va être dégradé, il va être rien du tout, il n'y a pas de souci.
Alors que
la population s'est tellement approprié le truc, ça fait tellement partie, c'est un bout de chez eux.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Et on peut le rappeler, on peut déjà annoncer qu'on fera une émission en direct du terrain d'aventure de Villiers-le-Bel.
Exactement.
Au beau jour, on va attendre un petit peu, il fait froid là. Je crois que c'est fermé.
Exactement, il réouvre en avril.
Bon bah, on ira, il me semble, au mois de juin où on verra, mais
c'est ça.
Effectivement, on fera une émission là-bas en direct.
Mais donc là, c'était pour revenir sur ce projet-là en question. L'idée qui a aussi l'idée sous-jacente entre guillemets, c'est d'en faire un terrain d'expérimentation aussi pour nos stagiaires, qui puissent aller voir que oui, il y a vraiment des espaces qui peuvent exister, pas que des espaces CMA, parce que
oui.
Ouais, mais il y a vraiment des espaces où tout ce qu'on va essayer de se dire pendant la formation est possible. Par contre, faut agir, faut penser, c'est pour ça que on défend un mouvement, c'est pour ça que c'est important de militer, c'est pour ça que c'est important d'être sur ces questions-là, mais c'est possible.
Et puis faut pas oublier aussi que c'est les 1000 jeunes ou un peu plus de 1000 jeunes que vous avez, au moins jeunes, hein, formés, j'ai envie de dire, durant l'année, qui vont aussi aller laisser comme une traînée de poudre vos convictions et tout ce que vous défendez. C'est à eux aussi de mettre ça en place sur leur lieu de travail.
Complètement. Et c'est pour ça que la formation continue et ne s'arrête pas quand on a le petit bout de papier, le diplôme et ce qui va avec. Et donc ça, c'est un des projets qu'on a. Mais ça, il y aura une émission sur nos actions et nos projets, si je dis pas de bêtises, qui pourra résumer différents projets. Et sur des actions, on a d'autres actions pour faire vivre justement le mouvement. Ce qu'on se disait, la vie militante.
Donc ça, c'est vie associative, vie militante. Hein.
Exactement. Mais tu vois, cet exemple qui est assez bon, c'est on a un stagiaire qui a eu envie qui est passionné par les jeux et qui a eu envie d'être à l'initiative de lancement d'une soirée jeu. Et donc tous les mois, il y a une soirée jeu de société qui est organisée. On arrive en plus, au travers du réseau de certains stagiaires, à inviter des créateurs de jeux qui viennent présenter leurs jeux de société. Et il y a une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de personnes qui se connaissent pas, ou qui se connaissent par travers de la formation, mais pas tous en tout cas, qui ne se seraient certainement pas rencontrés dans un autre espace, qui viennent d'horizons totalement différents, et qui peuvent discuter, qui peuvent partager un moment ensemble autour du jeu de société. Et ça, des initiatives comme ça, il y en a plusieurs. On a nos salariés, qui est un militant aussi, Antoine, à qui je fais un gros coucou, qui a une formation d'ébéniste à la base, et qui organise les copos du samedi. Tous les mois, le samedi, il se réunit avec quelques stagiaires, quelques militants, et ils travaillent le bois, ils essayent d'être sur des créations. Donc voilà. Et quand je disais tout à l'heure que n'importe qui peut venir au CMA,
Et proposer quelque chose.
Exactement. Et l'idée, c'est, tant qu'on peut, on sera un soutien, on sera un tremplin, on sera la petite marche, qui aidera. Et nous, on vit de ça parce que il y a aussi l'importance d'être sur ces terrains d'expérimentation et d'application.
Eh bien, beau programme en tout cas. Effectivement, je pense que ces 5 émissions, elles seront pas de trop, Slimane. Comment on peut vous retrouver ? On va redonner vos réseaux sociaux, votre site internet.
Alors, c'est sur les différents sites, c'est CMA Île-de-France. Ça change en fonction, des fois c'est le tiret du 6, des fois c'est le tiret du 8. Je sèche un peu sur ça.
Je pense que oui, voilà. On écrit CMA...
Île-de-France, IDF, Île-de-France, et on trouve assez facilement. Le site vient de se faire peau neuve, et le travail d'architecture qui a été le nôtre permet quand même de bien identifier les différents espaces dont on a parlé. Je sais qu'on est assez actif sur Instagram, et il y a pas mal d'infos qui circulent sur ce sujet-là. Et ce qui est important, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a une journée porte ouverte le 8 février, et c'est le moment de venir nous rencontrer. Il y aura aussi un stand autour de l'histoire des CMA le militantisme au CMA, l'adhésion au CMA, et il y aura des stands sur les formations, sur les actions, sur les projets. Il y aura un stand sur le terrain d'aventure où on pourra toucher un peu de bois aussi. Donc c'est vraiment découvrir l'ensemble de l'association sur cette JPO.
Alors ça se passe le premier week-end de février,
le 8 février.
Le 8 février, c'est un samedi.
C'est ça.
Et c'est à Aubervilliers.
De 10h à 16h.
Donc
65 rue des Cités.
Voilà.
Mais les infos sont vraiment sur le site.
Et nous, on le remettra. Mais je crois que vous êtes déjà sur notre site internet.
Il me semble que oui. Et sur les réseaux sociaux, ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil, c'est quand même assez présent. Et donc voilà.
Eh bien, je pense qu'on a quand même dit pas mal de choses dans cette émission. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un tour de table pour clôturer, voilà, un mot de la fin, une phrase de la fin, n'importe quoi.
Des dédicaces,
c'est votre moment. Ou pas, hein.
Bah oui, non, mais alors, j'ai beaucoup parlé sur la dernière partie, mais c'est
On te regarde tous, hein.
Waouh, ouais.
La pression. Le mot de la fin, voilà. L'émission arrive à sa fin.
Bah déjà, personne.
Déjà, merci beaucoup à IDFM de nous avoir reçus. C'est un moment hyper chouette de pouvoir partager un peu les actions des CMA. Et donc, je l'ai énoncé tout à l'heure, je pense que vraiment, si à l'occasion, les auditeurs et auditrices souhaitent venir nous rencontrer, faites-le. Et puis, voilà, il y a tellement de projets qui peuvent être portés, tellement de sujets de société qui peuvent être discutés, réfléchis. Donc, faut pas du tout hésiter. Donc, que ce soit sur le côté association d'éducation populaire, mais aussi sur la formation en tant que telle, si vous vous questionnez sur des formations que vous avez envie de faire, s'il y a des choses qui vous animent au niveau du travail social, etc. Enfin, faut vraiment pas hésiter à nous contacter. L'un ou l'une d'entre nous sera ravi d'y répondre. Voilà.
Merci Morgane. Je rappelle que tu es membre du conseil d'administration CMA Île-de-France. Jean-Marc?
Je vais essayer de faire court.
Sinon, je te coupe. Hein.
J'ai envie de dire, les CMA, c'est nous, et les CMA, c'est vous.
Wow. Bah c'est beau. C'est très court, mais c'est.
Ça veut tout dire. Jean-Marc, président des CMEA Île-de-France. Slimane.
Non, bah moi je veux remercier. Hein, je veux remercier tous les salariés, les bénévoles, les personnes qui œuvrent autour de ce mouvement et qui lui permettent d'exister, de se repenser, de s'actualiser. Et en ce sens, alors, une pensée assez particulière et très prononcée pour une de nos administratrices, Sandrine. Et pour un de nos salariés Madani qui ont eu une période un peu compliquée en cette fin et début d'année. Donc non, toutes nos pensées, beaucoup de courage et beaucoup de soutien et un gros merci en tout cas à tous ceux qui sont des acteurs et qui sont dans l'agir autour de notre association.
Merci Slimane, je rappelle que tu es directeur CMEA Île-de-France. Fatia, du coup, tu vas vraiment clôturer cette émission.
Le vrai mot de la fin.
Le vrai mot de la fin.
Non, je pense qu'on a dit déjà beaucoup de choses. Moi, j'encourage tout le monde, enfin en tout cas tous ceux qui ont envie de venir et de pouvoir essayer et de se dire que moi je rappuie sur le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie de la réussite et que l'échec c'est pas grave et que c'est pas vraiment un échec. Donc merci à toi.
Bah merci à vous, c'était très très intéressant. Voilà, ça me donne envie de changer de métier du coup. Mais je rappelle que nous étions avec les CMEA Île-de-France, centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Merci, on se retrouve le mois prochain, donc tous les derniers lundis de chaque mois. Vous aurez rendez-vous avec l'équipe des CMEA Île-de-France pour vous donner envie de vous intéresser à cette organisation incroyable qui existe depuis, on a dit, 1937. Merci Morgane. Restez bien à l'écoute d'IDFM Radio. Cette émission, elle sera bien évidemment disponible en podcast sur le site internet de la radio idfm98.fr et je crois qu'elle sera également disponible peut-être sur le site CMEA ou sur YouTube. En tout cas, vous la retrouverez. Merci de nous avoir suivis. On peut se dire au mois prochain.
Au mois prochain.
Rendez-vous le mois prochain. Belle journée à tous.
Merci. Allez, au revoir.
Nos partenaires en lumière sur IDFM Radio.